France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Quelle est votre définition du bonheur terrestre ? C'est dans le questionnaire de Proust, c'est un peu comme ça aussi que commence le livre de notre invité ce soir, la philosophe Marianne Chaillant. Où donc est le bonheur ? Quelle est votre définition du bonheur terrestre ? Qu'est-ce qu'on peut bien répondre à ça ? Est-ce qu'on répond la même chose aujourd'hui que ce que nous aurions répondu il y a 18 mois, avant la pandémie, avant les morts, avant les masques ? Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis au cours de sa vie ? Alors on s'est dit comme ça, nous, au téléphone sonne, que c'était là un joli sujet de réflexion, puisque c'est jour férié qu'on a le temps de se poser, puisqu'on a aussi le droit désormais d'avoir le recul nécessaire sur les mois qu'on vient de traverser, qui nous ont tous poussés à réfléchir à tout ça. Alors vous savez ce que j'ai fait ? J'ai demandé dans le bureau, Antoine, le rédacteur en chef, c'est quoi ta définition du bonheur terrestre ? Il m'a répondu, ben j'en sais rien, ça l'a un peu agacé je dois dire. Adèle, qui fait la programmation aujourd'hui, m'a dit, moi c'est aller manger parce que là j'ai faim. Et Tristan, le réalisateur, s'est débiné, il m'a dit, c'est personnel. Et ben vous savez quoi ? Moi j'ai trouvé ça génial, parce que quand on se sait pas, c'est pas qu'on a renoncé, mais c'est qu'on ne s'est pas fixé de but inatteignable qui nous emmènerait vers cette espèce d'illusoire complétude de nous-mêmes qu'on essaye de vous vendre en dilson dans les livres de développement personnel. Quand on ne sait pas, c'est qu'on ne cherche pas désespérément à être heureux, et peut-être que c'est ça, c'est qu'on est bien sur son axe. Et ça, c'était ma définition, l'axe. Alors parfois, évidemment, ça tangue un peu. C'est sûr, on a le mal de mer, mais tout de même. Dans son livre, Marianne Chaillant, qui a invité tous les grands philosophes à donner leur avis, de Schopenhauer à Sartre, de Camus à Nietzsche, emprunte justement directement au dernier à Nietzsche l'idée d'affronter notre propre chaos. Alors à vous de jouer, maintenant, quelle est votre définition du bonheur terrestre ? Est-ce que vous avez revisité votre idée du bonheur ? Ne pardonnons pas de temps, on me dit dans l'oreillette que le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer, c'est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez Françoise, on commence avec vous, bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Alors je vais redire ce que vous avez dit. Pour moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir un emploi et des engagements qui me plaisent. Et pour moi, le bonheur, il est à débusquer au quotidien. Il ne faut pas attendre qu'il arrive dans 10 ans avec un B majuscule. Il faut le chercher là, un petit bonheur, une lumière d'automne, une feuille qui tombe, une odeur de tarte aux pommes, la douceur du poil du chat, ou le fait qu'on soit dehors et qu'il ne pleuve pas. Uh-huh. Il faut chercher ici et maintenant. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de le chercher, de prendre le temps de le chercher quand on a mangé, quand on est en sécurité.
Uh-huh. Et vous l'avez, vous, ou pas, Françoise, à votre avis ? Est-ce que vous vous posez la question, en fait, ou pas ? Est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir en vous disant « Bon, alors, est-ce que ça va ? Est-ce que je peux définir mon propre bonheur ? » Ça vous arrive ou pas ?
Oui, je vous le dis, Françoise. La définition varie selon les jours.
Ouais.
Le bonheur, ça peut être simplement d'être dehors, de devoir attendre et se dire « Ah bah chouette, il pleut pas ». Ça peut être ça.
Et c'est déjà bien, ou quand il fait froid ou pas froid, comme aujourd'hui par exemple. Je vous remercie François de cette jolie entrée en matière et je vous salue Marianne Chaillant.
Bonsoir,
bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Où donc est le bonheur aux éditions Équateur ? Qu'est-ce qu'on pense de la définition, l'approche en tout cas de Françoise qui dit une chose après l'autre et surtout n'en mettons pas trop dans notre panier en fait.
Elle a dit beaucoup de choses intéressantes,
ouais.
Françoise.
Ouais.
D'abord, elle a commencé par dire qu'elle était en bonne santé.
Exactement.
Et elle a aussi précisé que c'était facile de définir le bonheur quand on avait mangé.
Exactement.
C'était quand très intéressant. Ça m'a fait penser à une phrase de Flaubert qui dit que être bête, égoïste et avoir une bonne santé, ce sont les trois conditions requises pour être heureux. Et si la première nous manque, tout est perdu. Donc, donc effectivement, il faut être en bonne santé, il faut avoir mangé. Mais elle a dit une deuxième chose qui était vraiment très intéressante, c'est qu'elle a parlé de l'ici et du maintenant.
Mmh.
Elle a un rapport au temps qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas le bonheur, il viendra dans un mois, dans deux mois, dans six mois, quand j'aurai enfin obtenu les choses qui me manquent aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de cette complétude impossible à réaliser.
Mmh.
Et ce qu'a compris Françoise, c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre que demain nous délivre ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Il faut saisir ici et maintenant ce qui s'offre à nous. C'était très philosophique, du coup.
Il y a beaucoup d'appels dans ce sens, et il y en aura quelques-uns, qui parlent effectivement des additions de petites satisfactions, en fait. Est-ce que c'est pas ça, là ? Vraie définition du bonheur, finalement, c'est de troquer le bonheur avec un grand B majuscule, quelque chose effectivement d'assez inatteignable, contre une addition de petits bonheurs à ramasser dans la rue.
Alors,
et aussi de petits malheurs, enfin je veux dire, ça fait partie de la vie, non ?
Très bien, oui. Alors qu'il faille se débarrasser de cette idée du bonheur comme complétude, de ce bonheur B majuscule dont vous parliez, ça me paraît un impératif pour ne pas être très malheureux. L'idée même du bonheur est probablement ce qui menace le plus notre bonheur.
Mm-hmm.
C'est parce que nous croyons que le bonheur existe comme cet état de plénitude absolue, que nous sommes malheureux, parce que parce que nous sommes incomplets, parce que beaucoup de choses nous font défaut, et qu'alors on se dit, mais il me manque quelque chose, j'ai raté quelque chose, je suis donc malheureux. Si on définit le bonheur comme ça, on est très malheureux. En revanche, basculer dans la première gorgée de bière et les petites satisfactions de l'existence, ou dans la position qui est celle d'un personnage de littérature qui s'appelle Créon, qui dit à Antigone, qui lui dit « Oh, apprends à te contenter du rire d'un enfant, d'un banc pour se reposer quand on est fatigué, d'un livre qu'on aime, d'une série à regarder », il parle pas de série, mais on pourrait dire pour nous. Alors ça, c'est pas vraiment le bonheur. Ça, c'est plutôt se rabattre sur la joie. C'est plus le mot de bonheur. Là, on parle des joies. Alors on pourrait, vous pourriez me dire, faisons le deuil du bonheur. Voilà, parce que c'est une idée folle, c'est une idée absolue, dangereuse, toxique. Ok, et je serais d'accord avec vous. Faut-il pour autant se dire que la seule chose qu'on puisse connaître, c'est la joie, c'est pas dit.
Pas très ambitieux,
c'est déjà merveilleux.
Mais ça dit, c'est intéressant parce que, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, on s'en souvient vaguement dans nos cours, c'est quand Créon dit ça à Antigone qu'elle change d'avis. Oui. Et qu'elle se dit, ah bah finalement, n'importe quoi, je vais continuer à l'enterrer mon frère. Et elle sait où ça l'emmène. Oui. Donc c'est précisément ça qui lui fait dire, ah non, ça c'est, si c'est ça, alors à quoi bon, en fait?
Et en fait, vous l'avez bien vu, c'est lorsque Créon lâche le mot de bonheur que la tragédie démarre. En fait, peut-être que, c'est ce qu'on essaye de dire là, c'est peut-être que cette idée du bonheur est l'aiguillon le plus mortel qui se cache en nous. Et il faut se défendre de chercher ce bonheur-là, en tout cas, parce que c'est lui qui nous met en difficulté. Et j'invite, en tout cas j'essaye, de convertir à une autre forme de bonheur, non pas définie comme donc la recherche de ce qui nous manque, de ce qui nous fait défaut, mais un bonheur qui, du coup, j'en reviens à Françoise, quand elle dit que c'est soi-même, on doit le chercher comment ? En essayant d'accepter la vie telle qu'elle est, vous le disiez vous-même, à la fois dans sa souffrance et dans sa joie. Le bonheur, c'est pas uniquement un ciel bleu sans nuages, c'est aussi les nuages. Tout à l'heure, Françoise parlait il fait beau, on se réjouit qu'il fasse beau, on peut aussi se réjouir qu'il pleuve parfois.
C'est vraiment la phrase qui me restera de votre livre et que je trimballe en bandoulière un peu, acceptons notre chaos.
Oui.
C'est pas si mal le chaos aussi parfois, parce que ça remet dans l'axe à un moment aussi quand on a été secoué, non, après tout. Est-ce que c'est pas terriblement triste, une vie qui ne serait que plénitude et d'ailleurs, est-ce que ça existe?
D'abord,
ça
n'existe pas. La complétude, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous y prenez garde, pour marcher, ce que nous faisons tous les jours, il faut d'abord accepter de chuter, de tomber. Il faut se lancer en avant, il faut accepter d'éventuellement chuter pour avancer. Et donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en danger, de l'existence véritable. Et c'est dans ce courage d'exister, ce courage d'oser le péril qui peut nous sauver, que réside le bonheur.
Et vous allez même plus loin, alors accompagné par Heidegger et d'autres, mais l'idée, et dans cette période post-Covid, au fond, ça nous intéresse, ça aussi, l'idée que quand on approche la mort, quand on sent la possibilité imminente, en fait, de quelque chose qui ne devait pas nous arriver parce qu'on est trop jeune, parce que, etc. Ça aussi, ça nous pousse à vivre, en fait.
Oui.
Et peut-être qu'il y a eu certains déclics de ce genre-là pendant cette période-là pour nous tous.
Oui. La pensée de la mort n'est pas du tout quelque chose de morbide. Et certains philosophes invitent à vivre dans la pensée de la mort parce qu'au contraire, elle nous dévoile l'urgence de vivre. Et je pense qu'on a été nombreux. Alors évidemment, tous ceux qui côtoient la mort au quotidien par leur profession n'ont pas eu cette découverte comme nous. Mais c'est vrai que la période du Covid nous a montré l'urgence de vivre. Et donc, la pensée de la mort, il ne faut pas simplement l'avoir dans des périodes comme celles que nous venons de traverser, mais c'est une pensée qu'on doit avoir quotidiennement pour ne pas différer de faire ce qu'il nous importe de faire.
Patrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Patrice.
Mais je pense que la perception du bonheur ne tient-elle pas, finalement, dans son étymologie « bonheur », où il ne peut être que ponctuel, avec la satisfaction de plaisir simple, sans occulter nullement la nécessité d'une compassion envers autrui. Et d'ailleurs, ça renvoie à l'idée d'un bonheur immédiat qui pourrait être un danger, qui confère à l'individu une sensation égoïste et le pousse à ignorer le bonheur potentiel d'autrui, le bonheur collectif. Pour quelques exemples, par exemple, les imbéciles heureux qui frôlent l'orgasme lorsqu'on torture un taureau, qui nagent dans l'indifférence quand d'autres surnagent en Méditerranée, ou qui ignorent les problèmes environnementaux, se sentent plus aptes au bonheur. Sauf que leur désinvolture, leur lâcheté, leur tombera un jour ou l'autre sur leur tête.
Sauf que ça, vous n'en savez rien, Patrice. Moi, je trouve ça rigolo. En fait, dans votre définition du bonheur, il y a ce que vous imaginez de ce qui rend les autres heureux de la manière dont vous le dites, d'ailleurs. Après tout, qu'est-ce qu'on en sait, non?
Ben, c'est-à-dire que s'ils le font, s'ils prennent cette attitude, c'est qu'ils le veulent. ils ont une certaine sensation de bonheur immédiat.
Bah, je sais pas.
Mais pour résumer, tant qu'il y aura de la misère, des inégalités dans le monde, le bonheur dans sa conception globale, comme vous l'avez dit, avec un grand B, ne sera qu'une vaste fumisterie, une imposture où les gens foutistes, qui se vautrent dans l'ignorance volontaire, envoient un bras d'honneur envers leurs propres enfants.
Eh bien, dites-moi, Patrice, Madame la philosophe Marianne Chaillon.
Mais vos auditeurs.
Qu'est-ce qu'on dit de Patrice ?
Bah, il dit le deuxième qualificatif dont parlait Flaubert. Être bête, égoïste et avoir une bonne santé. Voilà les trois conditions requises pour être heureux. Patrice pointe avec justesse que si on s'en tient à la définition commune du bonheur, hein, avoir cet état de plénitude, voilà, de joie absolue. C'est vrai que c'est faire fi de toutes les souffrances du monde, de toutes les souffrances autour de nous. Et donc, oui, il faut une part d'égoïsme pour être heureux. Il a raison. Il a raison sur ce point. En revanche, je parlerai pas de bonheur pour les exemples qu'il prend. Il a parlé d'orgasme de certains. Je parlerai plus de plaisir. Il s'agit pas de bonheur là à ce moment-là. Le bonheur c'est autre chose parce qu'il y a cette idée de. C'est pas du bonheur, c'est du plaisir.
Est-ce qu'il y a Moi, je voudrais revenir sur ce que vous dites et ce que disait Patrice aussi. Est-ce qu'on peut pas être heureux réellement si tous les autres, on peut pas toucher le bonheur si tout le monde ne touche pas le bonheur en même temps que nous en fait.
Non. Ça coïncide avec cette phrase qui m'avait amusée de rappeler. De Flaubert. En revanche, puisque dans ce que j'essaye de définir ma proposition, c'est ma proposition à moi sur le bonheur, c'est que ça tient dans l'assentiment, c'est-à-dire l'acceptation de ce lot totalement mêlé de souffrances comme de joie que nous offre l'existence, la nôtre, celle des autres autour de nous, le monde. Et donc, la souffrance, la nôtre et celle des autres n'est pas une objection au bonheur. Mmh. Elle est une des conditions du bonheur, pour autant qu'on la considère comme cet élément indépassable qui fait le sel de la vie. En fait, j'utilise une métaphore dans le livre, enfin un exemple. Je dis finalement, je crois que l'homme heureux, c'est celui qui pourrait se tenir face à sa vie ou à la vie, tel un marié devant l'autel, et qui pourrait regarder sa vie telle qu'elle est, avec toute sa souffrance. Recommencer, ça c'est Nietzsche, mais lui dire... Je te prends pour le meilleur et pour le pire. Et c'est celui qui aime dans la vie, y compris le pire, parce que c'est souvent l'envers d'une joie qu'on a vécue, qui peut se dire heureux. C'est celui-là qui peut regarder la vie et la prendre tout entière.
C'est aussi le Sisyphe heureux, au fond, d'Albert Camus. J'attendais qu'il arrive, je pense qu'il est prêt, parce qu'on est sur le même... On est sur le même ordre d'idée avec Bruno qui vient tout juste d'arriver au standard sur le bonheur de chacun et aussi celui des autres. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
On vous écoute, Bruno.
Je faisais part de mon indignation face à l'injonction de petit bonheur qui est réservée à ceux pour qui tout va bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont du mal à payer leurs factures de chauffage ? C'est d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont du mal à faire les courses ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de etc. etc. Donc cette injonction de bonheur de votre invité, je ne sais pas, me m'indigne.
Alors voilà. Moi, j'entends pas d'injonction, Bruno. Personne ne vous dit qu'il faut absolument être heureux. On est en train d'essayer d'aller chercher où peuvent être certaines définitions. Mais là-dessus, Marianne Chaillon, encore une fois... le bonheur des uns et celui des autres.
Non, je pense qu'il y a un malentendu, Bruno, parce que alors que vous soyez indigné, si j'ai pu sembler dire ce que vous avez compris, il y aurait de quoi effectivement s'indigner. Dans mon livre, je ne défends pas du tout l'idée qu'il faille cultiver les petits plaisirs de l'existence. C'est un livre sur le bonheur et justement pas sur le plaisir. Et donc je défends vraiment une autre définition du bonheur. En revanche, je partage votre indignation sur cette injonction permanente dans laquelle nous vivons. Je vous donne un exemple, Bruno. Quand je commence mon cours sur le bonheur, je demande à mes élèves, je leur pose la question de la définition du bonheur et je leur demande « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et pendant des années, tous les élèves disait « Oui, bien sûr. Est-ce que c'était la vérité ?» Non. Mais ils n'auraient jamais osé avouer qu'ils ne l'étaient pas. Et puis, il y en a quelques-uns qui commencent à oser le dire. Et pourquoi ils ont honte ? Parce qu'on fait du bonheur une sorte de norme, une injonction, un impératif. Et celui qui dit « Je ne suis pas heureux », on le taxe d'avoir raté quelque chose. Donc, je partage cette indignation. On a parfaitement le droit, on a parfaitement de bonnes raisons de souffrir et d'être dans la douleur.
Et il y a autre chose si on le prend à l'envers, en fait, et je veux certainement pas être aller tout à fait dans le sens inverse de ce que dit Bruno, parce que je pense qu'on n'est pas loin l'un de l'autre au fond. Mais ce que ça dit, c'est que donc ça veut dire que quoi? Pour être heureux, il faut avoir un travail absolument, il faut avoir de l'argent absolument, il faut etc. Vous voyez, comme si en gros, donc s'il manque quelque chose, on n'y a pas droit et on ne peut pas. Et il faut s'enlever peut-être cette idée de la tête.
Exactement. Et vous avez dit vous-même, pour être heureux, il faudrait donc avoir telle chose. Et vous voyez, il y a une substitution qui s'est opérée dans les verbes. Vous parliez pour être heureux et vous avez fait une liste d'avoir. Mm-hmm. Et ce que nous enseignent les philosophes, certains du moins, c'est que le bonheur n'a rien à voir avec l'avoir. Et que justement, on peut être dépourvu de tout un certain nombre de choses et être heureux en dépit de cela. L'être et l'avoir, ce n'est pas la même chose.
Ils sont tous plus ou moins d'accord d'ailleurs. Il y a évidemment beaucoup de différences, mais sur le fait que, en gros, le meilleur moyen d'être malheureux, c'est de vouloir le bonheur, en creux, ils sont tous plus ou moins d'accord, nos philosophes, non?
Ou peut-être je suis allée chercher ce qui...
Ah, peut-être,
non, j'en sais rien.
Peut-être.
Parce qu'il y a derrière, évidemment, derrière ce livre et ces philosophes que je fais parler, le chemin qui a été le mien dans l'histoire de la philosophie, voilà, et un peu comme Montaigne fait son miel en lisant les philosophes, c'est vrai que moi, ce livre est le produit et le miel que j'ai pu produire après la fréquentation des philosophes.
Et justement, et en donnant aussi des cours de philo, Marianne Chaillon, on a Laurent qui est à Caen et qui nous dit ceci: quand j'avais 17 ans, un prof de philo m'a donné la réponse à qu'est-ce que le bonheur. Il m'a dit que c'était les autres et j'adore cette réponse et du coup je l'ai faite mienne. Alors d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce que quand l'un de vos élèves vous dit « mais c'est quoi le bonheur ?», est-ce que vous lui donnez une réponse? Comme ce prof-là a donné une bonne réponse à Laurent, au fond, en tout cas, il l'a toujours sur lui, dans le portefeuille.
Alors, c'est très beau de voir l'impact que peut avoir un enseignant. Alors, je ne crois pas que je donnerai une réponse. Hein. En règle générale, je préfère laisser les gens trouver leur propre réponse que de leur donner la mienne. Après, cela dit, le livre que je viens de faire, de publier, c'est un peu mon cours. Et donc, je propose malgré tout une réponse. Alors, lorsque le professeur lui a suggéré que le bonheur tenait dans les autres... J'en parle dans le livre, on peut en discuter. Notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Freud, qui nous explique dans un livre « Malaise dans la civilisation » que les autres sont une porte absolument certaine d'entrée du malheur dans notre vie. Mmh. Alors, Laurent dira peut-être que Freud était, voilà, ne réalisait pas que non, les autres sont là aussi la porte de la joie, de la jouissance, etc. Mais si on y pense... Alors, il y a des relations extrêmement toxiques, extrêmement malfaisantes, mais il y a des gens qui sont adorables avec nous, et peut-être le seront-ils jusqu'au bout. Mais oui, mais ils mourront. Et donc, les autres, y compris ceux qui nous font uniquement du bien, supposer qu'ils existent, nous feront un jour du mal, ne serait-ce que parce qu'ils mourront. Et donc, autrui est la porte d'entrée de la souffrance dans notre vie. Et c'est pourquoi, encore une fois, je reviens à cette idée que, il ne faut pas penser bonheur comme l'exclusion de la souffrance. Autrui, Laurent a raison, peut être la source de notre bonheur, mais si on inclut la possibilité pour cet autrui de nous faire souffrir.
Dans votre livre, vous racontez qu'à une élève, alors c'est pas qu'elle vous a demandé la définition du bonheur, mais elle avait l'air un peu de tanguer, et c'est Camus que vous lui avez mis entre les mains à ce moment-là pour qu'elle essaye de se remettre sur son axe, et ça a très bien marché apparemment.
Oui, c'était merveilleux, et je suis très heureuse que vous en parliez, peut-être elle écoute l'émission. Effectivement, elle se posait la question, à quoi bon ? À quoi bon ? Mais c'était pas la question d'une adolescente dans des tourments adolescents, c'était une question vraiment très métaphysique. À quoi bon vivre quand on voit comment tout ce qu'on met en œuvre sera détruit, quand on sait que les gens qu'on aime nous seront arrachés? À quoi bon se tenir debout? Et je me suis dit, mon Dieu, mais si la philosophie n'a pas une réponse à apporter à cette jeune fille, j'ai cherché, j'ai trouvé Camus. Et effectivement, et je parle dans le livre et de Camus et du secours que la philosophie peut apporter à une personne qui se demande quel chemin emprunter. C'est pourquoi je me suis permis, avec son accord, de parler de son histoire. Effectivement, elle a trouvé chez Camus sa réponse pour oser, en fait, et c'est la réponse que moi je donne dans le livre, oser exister, c'est-à-dire oser prendre des risques, oser écrire, et puis effacer, et puis recommencer, et puis tourner la page, et puis déchirer, oser vivre enfin pleinement, sans espérer atteindre une incomplétude, sans fixer à son action d'autres buts que cette action elle-même, parce que c'est dans ce pas-là de franchir le mur qui nous sépare de l'existence authentique et de la prison du confort sécurisant que se tient probablement et l'existence et le bonheur.
Dans les Camus que vous citez, notamment la phrase peut-être que vous avez... C'est quel livre que vous lui avez donné ?
C'est Le mythe de Sisyphe.
Ah, Le mythe de Sisyphe.
Mais on avait lu ensemble en cours La femme adultère, l'exil et le royaume, un
d'accord,
recueil de nouvelles.
Parce que c'est dans L'envers et l'endroit que j'ai sorti une phrase, moi, de votre livre qui dit « À cette heure, tout mon royaume est en ce monde ».
Oui.
Voilà, comme ça au moins. Aymeric, bonsoir. Aymeric.
Oui, bonsoir.
Ah, ben on vous écoute, Aymeric.
Alors, pour moi, le bonheur, c'est vraiment la simplicité de se raconter autour d'une bière après une dure journée de labeur, de travail. Et c'est vraiment cette rupture de la voiture, du bien-être de passer d'une journée complexe, longue et intense à un moment plus calme où on peut se raconter et avoir un peu plus de douceur avec du houblon.
Le bonheur est une récompense, merci Aymeric. Le bonheur, au fond, est une récompense, Marianne Chaillant. Mais c'est fou, comme tous nos auditeurs nous ramènent au petit plaisir et aux petites joies dont vous parlez, en fait. Mais pourquoi pas, enfin, là, on est vraiment dans la première gorgée de bière de
exactement.
Philippe Delerme, mais tout le monde nous ramène à ça, en fait.
Oui.
Comme si, au fond, vouloir plus gros, était peut-être trop ambitieux, ou en tout cas trop dangereux, pouvait rendre malheureux. Donc, on sait se contenter de ces petites choses-là. Probablement moi la première, d'ailleurs, et nous tous, non ?
Et moi aussi, oui, oui. Moi, j'apprécie aussi, comme Aymeric, la première gorgée de bière entre amis. Et là, il s'agit du plaisir. Et c'est énorme, déjà, c'est magnifique, le plaisir, la jouissance. Tous vos auditeurs ont raison aussi de vouloir balayer ce concept du bonheur comme absolu, ce concept énorme. Mais c'est pas parce que parce qu'on a la chance de pouvoir connaître la jouissance et le plaisir que on ne peut pas aussi se rendre compte que nous pouvons et que nous sommes peut-être déjà heureux à condition de cesser de désirer ce fameux bonheur illusoire et de se convertir à un amour sans réserve pour l'existence dans toutes ses dimensions.
À condition aussi de pas imaginer que, de toute façon, c'est un état continu, en fait. Le bonheur est-il un état continu ? Au fond, est-ce que c'est comme quand on dit « je t'aime » ? Ça n'engage rien sur l'avenir de dire « je t'aime ». C'est un élan du cœur à ce moment-là et c'est une vérité. On peut être, ça ne dit rien du lendemain. On peut être là, ensemble, dans ce studio, très heureuses toutes les deux, et aller savoir ce qui va nous arriver demain, ou même en sortant, après tout.
C'est ça qui est magnifique, c'est que nous sommes là toutes les deux et avec tous les auditeurs qui nous écoutent, nous parlons tous ensemble, nous partageons possiblement un moment de bonheur, parce que nous tenons là où nous sommes.
Non, allez-y, finissez, pardon.
Donc, en fait,
j'étais en train de regarder la question de François arriver. Et
vous venez
allez
de me rappeler qu'il y a un dehors de cette émission. Vous voyez, j'étais tout entière plongée ici et maintenant, comme le disait Françoise tout à l'heure.
Exactement.
Et c'est peut-être ça aussi qui fait le bonheur.
Et vous avez oublié ce qu'il y avait dehors, c'est tant mieux. François est avec nous et accrochez-vous pour la réponse à sa question, Marianne Chaillant. Bonsoir, François.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut connaître le bonheur si personne vous aime ?
En voilà une vraie question. Merci beaucoup, François. Qu'est-ce qu'elle dit, madame la philosophe ? Elle réfléchit.
Ça me trouble. Ça m'a fait penser spontanément au fait que j'ai osé dans le livre dire quelle avait été la réponse du petit enfant que j'étais quand on m'a soumis pour la première fois au questionnaire de Proust. Mm-hmm. Et à cette question, donc, quelle est votre définition du bonheur terrestre ? Et ma réponse, j'avais 10 ans, je crois, c'était aimer et être aimé.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, François, spontanément, le petit enfant que j'étais, en tout cas, aurait dit « sans être aimé, c'est difficile ».
Mais l'adulte que vous êtes aujourd'hui, en dehors de la philosophe, l'adulte que vous êtes aujourd'hui...
Est-ce possible ?
Je sais pas. Est-ce possible de ne pas être aimé du tout ?
Du tout,
par
oui.
ailleurs, parce que il y a des familles très complexes et des gens très
oh,
seuls,
oui.
mais il y a aussi des amis.
Et puis, qu'appelle-t-on amour ? Est-ce qu'on parle là de l'amour de l'être, de la personne avec qui on vit, de l'être aimé ? Est-ce qu'on parle de la famille ? Est-ce qu'on parle du regard de reconnaissance que quelqu'un peut avoir pour nous, pour un geste de bienveillance qu'on a pu avoir ? Est-ce qu'il est possible d'être totalement dénué de tout rapport d'interaction affective ? Affectueuse avec autrui, je ne sais pas.
Moi non plus. Mais la question reste en suspens, ça veut dire qu'elle était bonne. Merci beaucoup François. Nous avons un auditeur sur l'appli France Inter qui nous dit ceci. La définition du bonheur qui me plaît bien, c'est celle de Comte Sponville, pardon, et qui dit « le bonheur, c'est le contraire du malheur ».
Alors, à vérifier si c'est bien la définition d'André Comte Sponville. Littéralement, c'est vrai. Le bonheur est bien le contraire du malheur. Néanmoins, ce qu'on essaye de répéter ici depuis tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de bonheur sans ce lot fait, tissé de deux fils. Vous parliez de l'envers et de l'endroit de Camus. Voilà, de tissé de fils blancs, de fils noirs. Le bonheur, pour moi, c'est cet assentiment, cette acceptation. C'est aussi le courage, on n'a pas développé ça, mais le courage d'oser sortir d'une existence balisée, d'une existence normée qu'on aurait tracée d'avance pour nous. Le courage de se perdre, de tenter, d'exister pleinement. Il y a une différence entre les verbes vivre et exister. Je ne sais pas si vous... j'en parle dans le livre.
Bien sûr.
Nous vivons tous ici, nous vivons sur un plan biologique. Mais combien existe pleinement? Et une des choses que j'essaye de défendre dans le livre, c'est que le bonheur tient dans cet effort pour ne pas se contenter simplement de vivre, de se trouver là, biologiquement parlant, de suivre la route, les formules, toutes tracées d'avance, mais d'oser sa propre route. Voilà. Et peut-être que dans cet effort pour exister, se tient le secret du bonheur.
Et on en revient d'ailleurs à cet élève, parce que c'est un peu votre fil rouge aussi, qui a fini aussi, elle aussi, par sauter le pas, quitter sa ville, enfin faire des choix, effectivement, qui sont pas des choix faciles, ni des choix immédiats. Au fond, peut-être que le bonheur, c'est aussi de la résistance, en fait. Et la résistance par rapport aux chemins qui sont trop faciles, ou par rapport à ce qu'on nous a trop soufflé dans l'oreille.
Exactement. Et à la tentation, par sécurité, par confort, par facilité, de renoncer à tenter. Quand cette jeune fille donc m'a annoncé qu'elle quittait Marseille pour aller à Paris, choix que j'avais fait à son âge, hein, puisqu'elle va dans un grand lycée parisien, j'étais très, très impressionnée. Mais qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit surtout, ne crois pas que tu auras eu raison de partir si tu réussissais en allant à Paris. Tu réussis déjà en prenant ce choix. Ta victoire est dans ce choix. Ta victoire est dans le fait que tu as le courage d'oser ton désir, d'oser ton élan. Et peu importe ce qui se trouve derrière, c'est tout simplement avoir le courage d'exister. En quoi c'est là-dedans que consiste le bonheur. Non pas dans ce que j'obtiendrai. Au fond, elle peut très bien échouer, elle me l'a dit, elle peut revenir. Le bonheur est dans le fait d'avoir eu le courage d'oser son désir.
Il y a autre chose que vous... Un exemple, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre, et surtout en vieillissant d'ailleurs, où vous racontez très vite, imaginons quelqu'un qui va chez le médecin et subitement le médecin lui dit, vous avez un truc sur le... C'était vous, bon, bah, très bien. Vous avez un truc qui a pas l'air d'aller, vite, allons voir, biopsie, etc. Donc subitement, il y a cette peur au-dessus de la tête.
Tout à fait.
Et la peur... vous fait dire, si j'ai rien, si je m'en sors, j'irai à New York, je changerai de boulot, je ferai ce que j'ai jamais fait, que j'aurais dû faire, etc., etc. Et là où c'est génial, c'est parfois, effectivement, c'est un vrai déclic, mais quand on vous dit, bah finalement, tout va bien, ça va, pouf, ça retombe et on redevient feignant, en fait, d'une certaine façon. Au fond, il y a une forme de feignantise du bonheur, vous croyez pas, parfois?
Mais oui, c'est quelle tâche épuisante que de devoir exister, que d'oser son désir, que d'oser écrire, que d'oser sortir de la route pour partir dans des sentiers. Oui, c'est effectivement, je raconte ça sans dire que ça m'est arrivé, mais c'est tous arrivé.
Et vous demandez à vos élèves combien de temps ça durerait, cette espèce de moment d'épiphanie, vous disent oh, quelques secondes.
Exactement.
Et donc au fond,
ils sont très lucides.
Exactement, ils sont déjà extrêmement lucides à leur âge. Séverine sur l'appli France Inter nous dit ceci, pour moi le bonheur, c'est d'avoir le sentiment d'être la meilleure version de moi-même. Je trouve ça joli cette définition, moi. On n'est pas loin de l'axe dont je parlais tout à l'heure, être dans son axe, en fait.
Alors, ça m'inspire plusieurs choses, d'être la meilleure version de soi-même. Il y a quelque chose dans cette définition qui me trouble, c'est...
Si elle connaissait...
Comme si on avait un nous-mêmes. Et précisément, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que justement, qu'est-ce que c'est le nous? Qu'est-ce que c'est l'identité? Nous avons à écrire ce que nous serons. Et là où je peux la rejoindre, c'est dans l'idée que le bonheur serait dans le fait d'oser prendre son propre stylo pour écrire sa propre histoire, pour écrire sa propre rime, pour revenir au poème de Whitman que je cite. On existe pleinement à partir du moment où, effectivement, on écrit sa propre histoire, sa propre rime, et que, en ce sens, peut-être, on est la meilleure version de soi-même.
Et peut-être qu'en écrivant ça, Séverine découvrirait une autre version d'elle-même qui est encore mieux que la version d'elle-même dont elle pense que c'est la meilleure version d'elle-même. On n'est pas sorti des ronces. Voici Roger, il est dans l'Aude et il nous dit « Le bonheur existe à partir du moment où on oublie d'y penser ». je les trouve géniaux, nos auditeurs.
Mais oui, à partir du moment où on oublie d'y penser.
Quand on oublie d'y penser, c'est-à-dire qu'on cherche pas, et surtout qu'on se pose pas la question, on s'assoit pas toutes les... Moi, ce que j'imagine avec cette question, c'est qu'on s'assoit pas toutes les 10 minutes en se disant, bon alors
mais
là,
oui, mais oui.
Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faudrait changer quelque chose
oui.
ou pas?
Oui, oui.
Etc.
Mais sa définition me rappelle une anecdote que je cite dans le livre, que je raconte, et en ce sens, à nouveau, je rejoindrai Roger. Je raconte qu'un jour, j'étais jeune, j'étais dans une fête de village en Catalogne et ma mère dansait. C'était un soir d'été extrêmement heureux de ce point de vue et je la regardais danser et je me suis dit, oh, comme j'aimerais que ce moment dure toujours. Mmh. Bref, mmh. je faisais ce vœu d'un plaisir qui dure. Donc je pensais au bonheur, j'espérais atteindre le bonheur. Et quelle a été ma récompense pour avoir osé pour avoir osé penser au bonheur, comme le dit Roger, eh bien c'est que j'ai été déchue de cette joie dans laquelle je me trouvais, puisque je me suis dit, eh bien oui, mais ce moment est destiné à passer. Et donc c'est vrai que d'un certain point de vue, cesser d'être, de vouloir penser au bonheur, ou en tout cas de vouloir l'obtenir, ce bonheur-là, c'est une bonne chose.
Christian cite Léo Ferré, je trouve ça intéressant. Le bonheur pour moi, c'est du chagrin au repos.
Ah oui, c'est très beau.
C'est beau, c'est un peu un truc de poète maudit quand même, de vous à moi.
Oui, c'est très beau, c'est du Ferré, c'est du Schopenhauer, c'est pessimiste. C'est dans la continuité de cette définition du bonheur qui ne contiendrait qu'une seule dimension. À partir du moment où on considère que le bonheur n'est pas un ciel bleu sans nuages, mais aussi, c'est de l'expérience de la douleur, de la tristesse, de la souffrance, hein, voire la souffrance vraiment, et que c'est aimer la vie tout entière. Alors non, le bonheur n'est pas seulement le malheur au repos.
Et ce qui semble dire quand même, là j'allais dire Christian, non Léo Ferré, c'est que en fait la vie n'est que chagrin, avec de temps en temps quelques moments de répit.
Oui, c'était ce que c'est la phrase de Schopenhauer. Hein, la vie n'est comme un pendule qui oscille de la souffrance à l'ennui.
Voilà.
Oui, mais c'est d'abord. Très triste, j'en parle dans le livre.
Oui, c'est pas très optimiste en le livre comme ça.
Et en même temps, c'est une vérité dont on ne peut pas faire l'économie si on veut penser vraiment le bonheur. Oui, c'est vrai, la souffrance constitue une part majeure de notre existence. Il ne faut pas le nier. Et c'est pour ça que le bonheur commun est une illusion même dangereuse. Voilà, vraiment. Mais est-ce pour autant, parce que nous allons avoir tant de souffrance, que nous avons tant de souffrance, que nous sommes... Que nous devons nous laisser abattre, ou alors faut-il comprendre le bonheur autrement, comme un Sisyphe, comme un Camus, comme un Nietzsche de l'éternel retour, comme Virginia Woolf, qui écrit sa lettre de suicide. Tout de même, elle est tellement oppressée par la douleur qu'elle va jusqu'à se suicider, et pourtant elle écrit « Je ne pense pas à son mari, je ne pense pas que de personne ait pu être plus heureuse que nous l'avons été ». Troublant de trouver le mot de bonheur dans cette lettre
de
suicide.
Et en disant merci, c'est quelque chose d'assez troublant, effectivement.
Oui, c'est cet assentiment à la vie. Est heureux celui tel le marié, prend la vie tout entière, pour le meilleur et pour le pire.
Marianne Chagnon, est-ce que vous êtes du genre à vous asseoir de temps en temps et réfléchir justement en vous disant, on est à quel ratio là dans ces, je sais pas, ce mois-ci, cette année ou ces 10 dernières années, est-ce qu'on peut jouer à ça, cette espèce de bilan de temps en temps, est-ce que j'ai eu plus de moments où je me suis sentie dans une vraie plénitude, où vraiment j'ai eu l'impression de nager dans le bonheur, est-ce qu'il y a eu plus de moments où je me suis sentie malheureuse, donc comment je fais pour faire en sorte qu'au prochain bilan, on inverse un peu ce bilan-là, ça existe de se poser pour essayer de réfléchir à ça ou pas?
Je me pose sans doute et je réfléchis, mais je crois pas que je puisse tracer sur une feuille une ligne avec deux colonnes, parce que j'ai l'impression que tout affect est doux amer. J'ai pas l'impression que je puisse faire deux colonnes étanches l'une de l'autre, les joies d'un côté et les tristesses de l'autre. Bon, peut-être ça c'est là on est rentré dans la psychanalyse.
La mienne, parce qu'on a cette question sur l'appli France Inter qui dit être satisfait vraiment de sa vie et penser qu'on est vraiment dans le bonheur. Est-ce que c'est vraiment du bonheur ou est-ce que c'est de la feignantise? Nous demande cet internaute.
C'est pas. Non, vraiment, je comprends, et d'ailleurs c'est drôle. C'est pas de la finantise, c'est vraiment très dur. C'est une épreuve de pouvoir aimer de la vie, y compris ce qui nous blesse en elle, y compris lorsqu'elle nous meurtrit. Et moi, la première, je souffre, je suis terrifiée de certaines épreuves qui m'attendent encore, je suis éprouvée par certaines expériences que j'ai eues. La question que je me poserais plutôt est-ce que je parviens toujours à aimer la vie? Au fond, c'est comme ça que j'entends la question. Es-tu heureuse? Est-ce que j'aime encore la vie avec tout son lot?
C'est ça, au point d'en faire toutes les expériences possibles, imaginables. Écoutez cette remarque de Anne sur l'appli France Inter, encore une fois. J'ai vécu un certain temps avec un monsieur qui répondait à ma question du matin. « Bonjour chérie, as-tu bien dormi ?» Il disait « Je suis vivant ». J'ai jeté l'éponge après quelques années, il était trop loin du bonheur, nous dit Anne.
Ah, c'est marrant parce que moi, souvent je dis à mes élèves, qui parmi vous s'est réveillé, je demande à vos auditeurs, qui parmi nous s'est réveillé ce matin et a eu pour première pensée, oh, merveilleux, encore un jour m'est donné. Et donc apparemment j'en ai trouvé un là, ce
monsieur l'a quitté.
Mais c'est fou parce qu'il était peut-être le seul lucide parmi nous de considérer l'existence comme un cadeau sans cesse renouvelé. J'ose dire que ça n'a pas été ma première pensée ce matin, ingrate que je suis envers la vie qui m'a été encore offerte aujourd'hui.
Peut-être que Anne justement attendait plus d'ambition dans le bonheur en fait, d'une certaine façon. Non, c'est peut-être ça qu'elle va chercher.
Ou peut-être ce rappel de la finitude quotidienne était un peu dur à porter, ce que je peux imaginer aussi.
Barthélémy sur franceinter.fr nous dit ceci, je pense que vous avez partiellement déjà répondu parce que c'est vraiment l'essence de ce que vous dites, mais Barthélémy est pile dessus, le bonheur peut-il se vivre sans l'expérience du malheur et de la tristesse?
Oui, donc encore une fois, si on conçoit le bonheur comme un état de plénitude, de complétude, comme un ciel bleu sans nuages, alors c'est une idée extrêmement dangereuse.
Et quel ennui surtout, honnêtement, quelle vie très ennuyeuse, honnêtement. Ça ressemble à une vraie caricature de vie, ça.
D'ailleurs, il y a une série télé qui s'appelle The Good Place, qui finit, ils arrivent au paradis, la joie permanente. Et c'est d'un ennui mortel.
Voilà.
C'est d'un ennui mortel et finalement le paradis se révèle être le pire enfer du monde. Pardon d'avoir spoilé fin de la série.
Aucun souci, je vais nous laisser sur cette phrase de Prévert que nous a envoyé Christian qui avait aussi cité Léo Ferré qui dit « J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Voilà, comme quoi, allez-y pour la première gorgée de bière. Je vous remercie beaucoup Marianne Chaillon, c'est un plaisir de discuter avec vous. Où donc est le bonheur aux éditions Équateur? Allez-y, plongez dedans, ça vous permettra d'y réfléchir très longuement. Je voudrais remercier pour la jolie semaine Kevin Pelon et Tristan Gratalon à la réalisation du 18-20, Nathalie Poitvin, Amélie Stadelman et Adèle Domas à la programmation, Antoine Quevilly à la rédaction en chef, à la technique ce soir, il y avait Michel Bézikian et Clément Berman. À tout de suite.